je crois que Dieu veut donner un rendez-vous ce matin, je pense vraiment, pour recevoir sa parole. Amen. Amen. Je suis convaincu de cela, donc moi je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin après être parti avec deux trois jeunes de l'église en Norvège. Pour donner un petit peu de contexte, je travaille avec un ministère qui s'appelle Jésus Révolution, où le but est de pouvoir apporter l'évangile aux jeunes de ce monde. Et on avait organisé un festival à Oslo, en Norvège, de 2-3 jours, où beaucoup de jeunes d'environ 25 pays différents ont pu venir adorer Dieu, passer la nouvelle année ensemble. On a également organisé de l'évangélisation ensemble dans les rues de Oslo. Il faisait froid, mais on a vu des belles choses se passer. Moi, je me rappelle très bien qu'un jeune homme qui a accepté Jésus, c'est une des choses que moi j'ai vécu, et je sais que chacun dans cette évangélisation a vécu des choses. Et en ce début d'année, je réfléchissais un petit peu à quelle prédication, quel message on pouvait apporter ensemble, on pouvait voir. Et j'avais vraiment cette idée des résolutions de la nouvelle année. Alors, je ne sais pas si vous avez les résolutions de la nouvelle année. C'est des choses qu'on garde pendant 3 jours au début de l'année et puis qu'on arrête. Ce sont des résolutions. Par exemple, il y en a qui disent que cette année, ils vont passer moins de temps à dormir. Se réveiller tôt, chaque matin, 6h du matin, avec une lecture quotidienne de la parole. Et 6h, et puis la journée commence, et on vient coucher tôt, comme ça on ne perd pas de temps. La première semaine, ça va, c'est un peu dur de se lever, de dire non, non, non. Et avec le temps, il est possible que parfois les résolutions deviennent un petit peu moins résolues, de moins en moins, et que finalement, on arrive en fin de l'année, et on se dit, c'est des 5 kilos que je voulais perdre, j'en ai pris 2 depuis Noël, ça passe. Et j'avais envie de un petit peu demander à Dieu de nous donner la résolution cette année, de pouvoir nous éclairer à travers sa parole des choses qu'il veut nous dire. J'aime bien moi tout ce qui est technique, la sono, la musique, toutes ces choses-là, et si on regarde sur une table de mixage, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de boutons. Il y a vraiment plein de boutons, et pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être assez inconnu que vous ayez tous ces boutons. En fait, c'est assez simple, si on comprend une rangée de boutons, on comprend tout. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ces boutons, ils peuvent vraiment faire des réglages minutieux dans le son, pour que le son produise quelque chose d'agréable. Et je pense que de la même manière, on doit laisser le Saint-Esprit faire des réglages minutieux sur la table de mixage qui est notre âme. Alors, c'est une analogie qui parle, ceux qui font la musique, les autres, ça faisait passer au-dessus de la tête. Alors, j'ai décidé de parler de ma voiture. Ma voiture, la Citroën C1, qui a un pot d'échappement détaché, donc qui fait un bruit absolument formidable lorsqu'on accélère, ça claque de partout. Ma voiture a parfois besoin d'entretien. Ma Citroën C1, j'ai depuis 4-5 ans, j'ai reçu, on m'a donné, cadeau, pour pouvoir travailler en Belgique. C'était un groupe de jeunes de Bruxelles, parce que j'avais un ministère qui a essayé de me donner sa voiture alors qu'il partait étudier en Australie. Et y a parfois, ma voiture, elle a besoin d'entretien. Ça permet d'avoir une grande mobilité, une grande utilité, mais elle a besoin parfois de passer à l'entretien. Alors, Jésus, en venant sur terre, il a déclaré qu'il nous acceptait comme nous étions. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a un changement qui se produit. Et ça vient vraiment de lui, le travail qui est fait, on lui dit simplement oui, et lui il vient changer quelque chose dans nos cœurs, changer quelque chose dans nos vies, et avec notre relation qu'on fait chaque jour avec lui, eh bien ça permet à ces réglages, à ces entretiens d'être faits. Je viens prendre la même image pour nos cœurs que la voiture. Après avoir fait de la route avec Dieu, il y a bien des moments où il faut s'arrêter et faire des petits ou des grands entretiens. Je sais pas s'il y a des garagistes ici. Mais si vous connaissez les garagistes, vous savez qu'aller au garage, ça coûte cher. Ça monte souvent à quelques centaines d'euros. Alors, il y a quelques années, j'ai décidé, parce que j'ai toujours beaucoup de moyens, de faire les entretiens moi-même. Alors ça, c'était vraiment une aventure. Au début, comme ça, on trouve qu'on a des bonnes idées, puis on se rend compte que c'est plus dur que ce qu'on avait attendu. C'est des choses assez simples. Alors, changer un filtre à air dans une voiture, c'est excessivement facile. Dans la plupart des cas, c'est ouvrir le capot, enlever un couvercle et changer un filtre. C'est vraiment, vraiment ça. J'ai pas envie de payer 100 euros pour changer un filtre dans ma voiture maintenant. Mais j'ai remarqué que, avec Dieu, c'est un peu la même chose parfois. Il faut beaucoup plus lui donner l'opportunité de venir changer les choses, même si elles sont simples dans notre cœur. Parfois, il y a des grosses choses à changer, parfois, il y a des plus petites choses à régler. Mais Dieu qui sait sonder nos cœurs au fond de nous-mêmes, à savoir pouvoir en déterminer l'état. Alors la question pour nous aujourd'hui, c'est, en cette nouvelle année, quel est l'état de notre cœur? Quelle est la disposition de notre cœur? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir pour cette année? Alors, il est possible que pour cette année, on va se passer par des grands changements, des grandes réparations. Peut-être qu'il y a des choses assez grandes qu'on va changer dans notre vie en ce début d'année. Les mensonges qu'on s'est mis dans la tête, les mensonges que d'autres personnes nous ont mis dans la tête sur la valeur qu'on a, sur comment est-ce qu'on, notre relation avec les autres, les habitudes qu'on aurait. Parfois, c'est mis par nous-mêmes dans la tête, ces mensonges-là, mais ceci nous écrase et nous empêche de vivre notre vie de la façon dont nous voudrions qu'on la vit, vraiment avec tout le potentiel qu'elle pourrait avoir. Avant de venir sur Terre, à travers Jésus, Dieu parlait déjà à l'humanité de plusieurs manières. Il avait choisi un peuple qui s'appelait les Hébreux. Et il y a eu des moments où il a dû faire le ménage. La grande difficulté pour les Hébreux, c'était qu'ils avaient la grande maladie de vouloir adorer plusieurs dieux. C'était vraiment ça leur maladie. Il y avait Dieu qui était présent, qui était là. Et il avait Dieu, ok, Yahweh, on garde Yahweh, oui, que notre Dieu, mais au cas où, on garde deux, trois petites idoles en arrière-plan. On ne sait jamais que, voilà. En fait, les gens avaient une relation vraiment un peu bizarre avec les dieux. C'était une compréhension assez stratégique des idoles, de la religion. Donc c'était, je vais essayer d'offrir des choses à un dieu, le dieu de la lune, le dieu Moloch, pour que lui puisse me bénir. C'était une relation assez commerciale, si on y pense. C'était même parfois une relation où on essayait de contrôler la divinité. Je vais devenir le représentant de ce Dieu sur la terre pour pouvoir qu'il puisse me bénir et me donner la victoire sur mes ennemis. Et on a souvent cette influence des dieux étrangers qui influence la relation de Dieu avec Israël, ou la relation plutôt d'Israël avec Dieu. Et c'est pour ça souvent que Israël est remis en question par Dieu. Mais quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches en moi? Est-ce que tu cherches juste quelqu'un qui va t'apporter des choses? Ou est-ce que tu cherches vraiment une relation? Et là, ce qui est intéressant, et heureusement que Dieu a fait ça, c'est qu'il avait déjà prémédité qu'Israël n'y arriverait pas, et lui s'était engagé à être fidèle. C'était une alliance un petit peu dans un sens que Dieu a fait avec Israël. Il a dit, il s'est engagé à être fidèle. La seule chose que Israël devait faire, c'était rester dans les voies que Dieu avait demandé. Et on peut voir que s'il restait dans les voies de Dieu, les choses se passaient bien. S'il sortait des voies de Dieu, les choses se passaient mal. On peut voir qu'au cours de l'histoire de la Bible, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont fait des grands nettoyages, des grands entretiens pour Dieu. On a eu Élie qui a tué tous les prophètes de Baal. On a eu aussi Jésus qui nous dit dans Matthieu 9, verset 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Dieu vous demande peut-être certains changements en lui demandant de venir, ou lui demande de prendre plus de place. Dieu, il peut vraiment faire un changement radical dans notre vie si on lui laisse sa place. Mais il y a vraiment ce point important-là. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille dans un avion hier, on revenait de Oslo, qui m'expliquait pourquoi la science avait... Les gens, je sais pas, les gens, ils m'ont parlé avec moi, ils parlent, alors je vais regarder mon truc, mais les gens parlent avec moi de la religion et de la foi, ok. J'ai pas été parler avec elle, c'est elle qui voulait, et donc elle me parle du fait que la science, voilà, maintenant pour être la religion, c'était pas. Alors moi, quand les gens parlent de la religion, je suis toujours d'accord avec eux, je suis d'accord que la religion, c'est pas bien, parce que je n'entends pas, mais la foi qu'on a en Dieu, la foi placée dans mon Dieu qui est vivant, ça c'est quelque chose. Et j'ai remarqué vraiment que cette fille-là, elle avait décidé que même si Dieu existait, elle ne devait pas lui donner de place. Et à un moment donné, je suis arrivé dans la conversation, et dans ma tête, il y a quand même cette vérité qui a révélé que Dieu respecte la vie des gens. Si Dieu aime quelqu'un, il respecte ce qu'il veut. Donc Dieu, il veut se présenter aux gens qui le veulent, Dieu, il veut même se présenter, il veut prendre la place qu'on est prêt à lui donner. Je me rappelle très bien, il y a quelques semaines, j'étais en train de commencer ma journée. On arrive au milieu de la journée et je sens qu'il m'entend. Et je dis, allez Seigneur, viens dans mon matin. Seigneur, je veux vraiment que ta présence puisse m'accompagner. Et là, je sens que ça vient, le sentiment du malaise que j'avais de malaise, il est réglé. Il y a quelque chose que Dieu voulait m'apprendre. Et j'ai remarqué que le Saint-Esprit, il est vraiment dans mon cœur. Il ne va pas s'imposer là où il n'est pas invité. Puisqu'il nous a remis l'autorité de pouvoir proclamer les choses, c'est bien notre responsabilité de lui donner la place. Alors, comme je disais, parfois ça doit être vraiment des choses importantes à changer, parfois peut-être même des décisions professionnelles, des choses qui vous empêchent de pouvoir toucher Dieu, de pouvoir l'approcher. Ça peut être des relations romantiques aussi, des choses qui nous empêchent de pouvoir vraiment profiter de tout ce que Dieu veut pour nous, un changement concret. C'est le début d'année peut-être ici qui peut vous aider à dire, ok, moi je vais faire ça, je vais réfléchir à ce que je dois changer dans ma vie. Maintenant, il y a peut-être aussi d'autres types de réglages à faire. C'est parfois longtemps qu'on marche avec Dieu, et on n'a pas peur de devoir changer les pièces principales. On est content du moteur qu'on a été installé. Je ne sais pas si la logique de la voiture, ça marche vraiment. Je ne sais pas. Peut-être prêcher à plus de garagistes. Mais en tout cas, ça va, vous comprenez. Parfois, il y a besoin de ne pas nécessairement changer les grandes pièces de nos vies, les grands équipements. Et il y a aussi qu'on a besoin de seulement de quelques réglages minutieux. Vous savez, pour ceux qui font de la sono, vraiment parfois tourner un bouton de la sono de quelques degrés, ça peut changer tout le son. Ça peut transformer le son de quelque chose d'un petit peu désagréable à quelque chose vraiment d'harmonieux. Et je pense que dans notre appel, Dieu nous appelle à faire la même chose, à pouvoir mettre des réglages dans nos vies qui sont parfois minutieux, mais qui changent tout. Hier soir, je parlais à l'homme fort du groupe de jeunes, de musculation. Et il m'expliquait que, voilà, il y a certains mouvements quand il va à la salle de gym, il faut bien les faire. Parce que si tu les fais mal, ça tu vas faire mal. Donc parfois, tu fais le bon exercice et le mauvais mouvement. Et si je ne me trompe pas, ça peut être juste de quelques degrés l'ajustement à faire. C'est un bruit de notre ami de la salle de gym, donc je sais que c'est bon. Et bien, de la même manière, peut-être que mes résolutions, ce serait d'aller à la salle de gym. De la même manière, nous devons aussi faire parfois des réglages minutieux. Et ça se fait à l'aide du Saint-Esprit. Et ce que moi je préfère avec le Saint-Esprit, c'est cette image-là, c'est que le Saint-Esprit, il ne débarque pas avec un grand spot à 2000 watts et il éclaire tous les satellites. Il nous remet une petite flamme. Il nous amène à la carte de notre âme. Et il dit, fais confiance. Deux pas à droite, trois pas à gauche, et t'es bien. Et là, on voit, voilà, là je vois, là, quand les gens m'énervent, je réagis toujours mal. Faut que je réagisse ça. Faut que j'ai une autre attitude par rapport. Et le Saint-Esprit nous aide à pouvoir surmonter cette lumière, et qu'il nous remet ça dans la prière, qu'on vit quelque chose de l'équipe, un changement qui est fait. Et puis, il dit, voilà, c'est deux pas en arrière, un pas en arrière. Et arrive. Et là, on voit, c'est toute autre chose qu'on va rêver dans la vie. Et comme ça, les petits réglages sont faits un à un, où Dieu ne nous donne, ne nous jette pas la lumière sur tout ce qui nous salue en même temps, pas à pas, et nous permet d'aller de gloire en gloire, de lui et sa personne. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que ça veut dire que Dieu respecte le processus avec douceur. Et pour cela, on va pouvoir prendre une habitude absolument et terriblement importante. Il faut pouvoir inviter Dieu dans notre journée. Et c'est quoi la meilleure manière de faire ça que de passer du temps avec lui? Que de pouvoir prendre un temps à part, de façon régulière, où on choisit de dire ok Seigneur, je veux venir devant toi. S'il y a bien quelque chose que j'ai envie pour cette année, c'est de pouvoir vraiment avoir un temps, vraiment avec Dieu, mais de façon régulière. Pourquoi? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de distractions qui ne sont pas toujours mauvaises. Attention, c'est ça le pied. Elles ne sont pas mauvaises, les distractions. Parfois c'est du travail, parfois c'est un ami déjà occupé. Et après, quand est-ce que je vois ce grand Dieu? Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu peut faire les petits réglages dans nos vies. C'est dans ces moments-là aussi que tout le stress, tout le poids des choses qu'on porte peut être déposé à la croix. Si on veut être des chrétiens pas stressés, c'est facile. Il suffit de passer une petite pause. Mais bien les pauses. Qui aime bien les pauses au travail? Et bien, de la même manière, on doit prendre une pause dans notre journée et dire ok Seigneur, maintenant c'est pour toi. Maintenant, quand je me réveille le matin, j'ai vraiment, chaque fois que j'y pense, je dis ok Seigneur, comme je le disais hier, comme je le disais sur trois, viens avec moi dans cette journée, je vais inviter chaque jour. Mais j'ai parfois l'impression qu'il veut l'entendre chaque jour. Si on ne fait pas ça, mais par contre, on devient un peu ce que j'appelle les chrétiens Twitter. Vous avez vu les chrétiens Twitter? Ou on pourrait dire les chrétiens Snapchat. Entre Dieu et moi, c'est 140 caractères. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Twitter est un réseau social qui est basé sur le service de messagerie aux États-Unis et beaucoup de messages, parce que les messages sont gratuits, SMS. Et c'est basé sur Internet, donc ce qu'ils croient, c'est l'idée qu'on peut publiquement envoyer des messages à notre liste de contacts de façon facile, automatisée, mais c'était maximum 140 caractères. C'est pas très loin, 140 caractères. Et par contre, on a cette relation avec Dieu parce qu'on ne passe pas le temps avec lui, on ne cherche plus, on est dans la routine de la vie, alors entre Dieu et moi, c'est des petits messages comme ça de temps en temps. On est souvent face à des situations où on a vraiment besoin d'être éclairé par Dieu, on ne comprend pas, on a réagi mal, on a agi mal, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas été assez courageux et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et tout ceci que je dis, c'est pas pour qu'on se sente condamné, mais pour qu'on se remette en question et qu'on dise c'est quoi la physique de mon cœur? Quelle place je veux donner à Dieu? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur eux. La pluie est tombée, les torrents sont tombés, les grands montants et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, que je dis et les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et fermée les grands. Jésus nous dit qu'il va y avoir des tempêtes, c'est un fait. Mais si nous suivons ces commandements, les tempêtes peuvent se déchaîner, nous résisterons. Je rappelle que Jésus, il parlait à une foule de gens qui étaient pécheurs. Eux, ils peuvent les avoir, mais les tempêtes. Et cette image qu'il donne, Jésus dit, si vous suivez mes commandements, la souffrance dans la vie, elle va être là. Elle va faire partie de la vie et des difficultés. Mais votre maison va tenir. Vous allez pouvoir tenir. Moi, je pense qu'on peut aller même plus loin que ça. La maison, on va pouvoir aller l'améliorer. Alors que la tempête se déchaîne, on réfléchit, ok, je vais agrandir la salle de bain, je vais agrandir la salle à manger. Hein. Au milieu de nos souffrances, on est capable de se dénoter avec Jésus. C'est quand même extraordinaire. Il faut quand même se rendre compte qu'on a. C'est ça la grâce, c'est de pouvoir pas avoir la victoire malgré les souffrances, c'est avoir la victoire à travers les souffrances. Et on perce les souffrances comme un bateau qui perce l'océan. J'avais à cœur de faire témoigner un ou deux jeunes sur ce qui s'est passé en Norvège, et je vais commencer par Léa. J'avais voulu inclure ça dans la communication comme ça, on est gardé éveillé. Et donc Léa avait un petit peu raconté ce qu'elle avait vu là-bas, pourquoi elle était là-bas et tout ça, mais aussi après une histoire qui l'a touché.
Voilà, je suis partie à Oslo pour l'université de Pilates. Et en fait, je suis partie là-bas parce qu'on m'a dit que c'était plus ou moins. En fait, c'est comme le summer team, mais en plus court et en plus tranquille. Donc, je me disais, la plupart pas été, vu que j'ai déjà fait le summer team et que je me fous. Et franchement, ça m'a pas décidé. Toutes les préditations, elles m'ont vraiment touchée. Et même si la fatigue était là, c'était tellement. Ça me parlait tellement, je ne pouvais pas décrocher en fait, même si j'étais fatiguée. Et parfois, je pense que dans certains moments de notre vie, on a besoin de retrouver des choses comme ça, qui nous propulsent vers Dieu. Et je pense que j'en ai besoin à ce moment-là. Et ça m'a fait trop plaisir de voir d'autres jeunes chrétiens comme moi et de pouvoir parler à Dieu. Voilà, j'ai envie de vous dire que je suis passée là-bas. C'était la dernière réunion. En fait, il y avait une fille de Belgique. On était dans un appartement de Belgique. Et il y avait une des filles qui avait très mal au dos. On savait pas trop pourquoi. Elle ne savait pas le dos parce que le papier était trop chaud là-bas. Enfin, en fait, il fallait attendre de revenir en Belgique. Et elle avait super mal au dos. Donc la soirée se termine, il est minuit et on va tous dormir. Seulement, on voit que la formale, elle était dans le chambre, donc on lui a dit de prendre un médicament et en fait, parler avec toi, il faut vraiment que tu sois infecté du médicament. Est-ce que tu puisses avoir dormir sans que tu sois. Donc on a parlé pendant encore 2 heures de réunion. À 2h30 du matin, elle est partie dans sa chambre et on a été dormir. Seulement, vers 4h du matin, elle est revenue en pleurant dans ma chambre en fait. Et moi, j'ai un sommeil assez léger, donc je me suis réveillée direct. Elle m'a dit qu'elle avait un peu mal, elle pleurait. Et je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas de médicaments pour elle. Et donc, elle m'a dit que c'est pas grave, rien de se dans ma chambre, j'ai été une personne qui va dors toi correctement parce qu'on est moins tourné demain. Et elle est partie dans sa chambre, mais je l'entendais en fait, je l'entendais respirer et j'entendais qu'elle souffrait fort. Et pendant 10 minutes, je suis restée dans mon lit à réfléchir parce que je suis vêtue d'elle, donc j'essaie de dormir. Et je me disais que c'était tellement hypocrite d'essayer de dormir parce que j'entends bien qu'elle souffre. Et donc je suis allée la chercher et je restais juste une salle dans l'appartement qui était libre. Donc on est allé dans la salle de bain et je lui ai dit que j'avais prié pour elle et que tant pis que la souffrance s'arrêtait pas, mais moi j'avais pas arrêté de prier. Et donc on a commencé à prier et puis je voyais qu'elle était super touchée de ce que je priais avec elle et que je faisais ça. Et la douleur n'est pas partie tout de suite. Mais je lui ai dit que je ne la lâcherais pas, donc tant qu'elle avait mal, et tant pis qu'elle avait tout mal. Et à 5 heures, la douleur s'est arrêtée, donc une heure après. Mais on était partis dans une discussion tellement intéressante que finalement on a continué à parler. Et 10 minutes après, en fait, la douleur elle a repris. Et donc on a continué à prier pendant plus ou moins une heure encore. Et puis là, Francesco, elle s'en allait pour quitter, donc du coup, on a dû quitter la salle de bain. Et donc, on lui a raconté pourquoi on était là. Parce que, voilà, et puis, il a voulu souvent ramener dans la prière. Et donc, on a appris encore pendant 10 minutes. 10 minutes après, elle nous a dit qu'elle avait plus mal. Donc, on était super contents et tout. Moi, je suis dans ma chambre, on va tous dormir pour 40 minutes. Et donc, on était trop contents. Seulement après 10 minutes, en fait, on était séparés, on n'était pas dans la chambre. Et après 10 minutes, la douleur a repris. Du coup, Francesco a pris la Lucia. Et moi, je l'ai suivi en deux minutes. Et après, toute la journée, elle a encore mal. Mais je la lâchais pas. Enfin, on était tous avec elle et on criait tout le temps. Et je pense que je devais choisir entre prier toute cette soirée d'après la même parce que ça m'a appris tellement. Je pense que ça lui a appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a fait de prier ensemble et de prier malgré la douleur, même si ça ne s'arrête pas, de juste continuer parce qu'on ne veut pas prier les autres, on veut encourager les autres, on ne veut pas qu'on soit mal. Ça m'a vraiment touché. Le fait qu'elle soit tellement heureuse que je sois juste là, même si sa douleur est encore là, mais qu'elle soit juste touchée par ma présence. Et je me dis que chaque jour, je vais être comme ça pour les gens qui sont autour de moi, de pouvoir être là pour eux, et peu importe si je ne vois pas le résultat, moi je sais que je veux être là, et que ça ne changera pas de ce que je ressens et de ce que les autres ressentent.
Merci. Pour finir le témoignage de Léa, j'ai reçu un message après de Laetitia qui a dit j'étais déçu d'avoir pleuré autant, mais j'avais vraiment très mal. Quoi qu'il en soit, je ne regrette même pas cette douleur. C'était nécessaire. J'ai appris beaucoup cette nuit en priant avec Léa et Francisco. Je n'avais jamais fait ça et j'ai réalisé et expérimenté l'importance de la prière et de l'union dans la prière. Amen. Il faut savoir que ici, Laetitia, c'est vraiment un an qu'elle a rencontré Dieu. Il y a des changements extraordinaires. Parfois, Dieu nous prend jusqu'à nos limites. Jusqu'à vraiment nos limites, il ne nous laisse jamais casser.
Donc voilà, comme Léa, Dieu aussi envie de partir en Norvège. Au début, c'était aussi un peu l'envie de voyager, de découvrir un nouveau pays. Alors, franchement, on avait un peu dit que c'était un peu comme de la Séphie, donc je me suis dit, ah, ça va, je vais recevoir des choses de Dieu. Effectivement, on a eu vraiment pas mal de messages sur la prière, sur comment écouter la voix de Dieu, vraiment tous des messages très intéressants. Et donc, je pense que dans les derniers soirs, tout le temps du Nouvel An, on a. Tout le monde était là à s'avancer un peu pour que Dieu, elle sentait un appel de Dieu enfin, des missions, un peu de choses, de visions et tout ça. Et alors, ils ont appelé vraiment tous ceux de Belgique qui arrivent devant, qui est vraiment pour le réveil en Belgique. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose dans notre cœur et ça. Enfin, c'était juste voir, de voir toute la Belgique comme ça, tous ceux qui nous présentaient devant, et on était vraiment là, soudés, à prier. C'était vraiment un moment magnifique. Et puis, ce moment-là, il a continué dans leur soir avec les gars qui étaient de Belgique, il y avait Robin et Sam. Et donc, on a continué à parler un peu des visions qu'on avait pour la Belgique, vraiment de pour les faire bouger les choses. Chacun, enfin, on a vraiment passé un très bon moment. Je pense qu'à 13h30, ça fait du matin. Il y avait la fatigue en plus, mais. Ce qui m'a vraiment touché là-bas aussi, c'est que malgré la fatigue, malgré tout ça, malgré surtout le social, hein, ça m'a vraiment touché malgré la douleur, la fatigue. Elle continuait à sourire, à être là, à vraiment aider les autres. Et moi, ça m'a vraiment touché. On voyait vraiment que Dieu était à travers elle, vraiment par tous ses actes. Et ça m'a aussi donné envie d'être comme ça, de pouvoir aider les autres, que, malgré les douleurs. Puisse continuer à servir Dieu et à grandir dans la prière. Voilà.
Amen. Je pense que Dieu fait autre chose. Hein. C'est bien d'entendre ces témoignages-là. Ça nous permet de voir un petit peu ce que Dieu fait. Et je pense aussi que ça peut nous vraiment amener à la pensée de Christ. Dans Philippiens, je te vois donner marqué. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque mise d'ordre, rendez la joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Je pense que pendant cette année, on est appelé à pratiquer des nouveaux sorts de ministère. Des nouveaux sorts de ministère, comme on l'a entendu un petit peu, qui ont été témoignés par les jeunes qui ont été au début de la nouvelle année. Alors, un ministère qu'il faut absolument pratiquer cette année, c'est le ministère de pouvoir se taire. De pouvoir savoir garder le silence quand les émotions sont fortes. Un autre ministère qu'on va pratiquer, c'est le ministère de pouvoir être le premier à demander pardon dans la relation. Même si on a raison, même si on a raison, être le premier à pouvoir aller vers l'autre et faire un ministère de pouvoir semer la paix dans nos paroles, dans nos actions. Le ministère de pouvoir voir le meilleur dans les gens autour de nous. Je remarque ça beaucoup parfois, on doit pouvoir s'efforcer de choisir de quelle façon on va interpréter les actions qui sont portées contre nous. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de mal envers nous exprès? On a souvent tendance à imaginer des scénarios où on ne voit plus le meilleur dans les gens. Et on ne voit plus l'étincelle de Dieu en nous. Si on traite les gens comme selon leur identité céleste, c'est ça qu'on va récupérer. C'est vraiment ça qu'on va pouvoir recevoir. Même aussi pour les couples, quand je fais la médiation, je vois les couples qui ont pris, c'est les couples qui n'ont plus, qui ne voient plus le meilleur dans l'autre. Et réintégrer dans cette mentalité-là, par le fait de dire « Ok Seigneur, je vais revoir le meilleur dans la personne face à moi. » Je vais avoir le meilleur dans les relations avec mon conjoint. Je me rappelle très bien un prédicateur américain qui expliquait ça une fois. Il revenait d'un week-end de conférence où il avait prêché. Il était sur la table du salon, il avait trois enfants, un jeune marié avec sa femme. Et il expliquait que ses feuilles de prédication étaient partout. Et il se sentait vraiment mal parce qu'il venait de faire un week-end où il ne voyait pas sa famille. Il avait ses feuilles de prédication partout sur la table. Ses enfants étaient là, mais il ne les écoutait pas. Et sa femme a interrompu et dit « Regardez votre papa, les enfants. C'est un héros. » Parce qu'il a fait son week-end fatigant. Il est encore en train de relire ses notes pour le dimanche. Il y a eu ce changement où, au lieu qu'il explique que sa femme, elle aurait pu tout à fait, avec justice, dire « T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Tu n'es pas présent. » Elle a choisi de voir le meilleur dans son couple. Je pense que pour moi, quand j'ai entendu ça, je trouvais ça inspirant de pouvoir se dire « Ok. » Choisissons de voir le meilleur les uns envers les autres. Ministère de la patience aussi. Soyons patients les uns envers les autres et dans toutes les circonstances. Parfois, quand on manque de patience, et bien on fait payer aux autres notre frustration. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On a une mauvaise journée, où les choses changent, on est frustré et c'est les gens autour de nous qui payent le prix. Je ne sais pas, moi ça m'arrive souvent malheureusement. Voilà, peut vraiment se revêtir des mêmes sentiments qui sont en plus de se dire, ok, je ne vais pas faire payer aux autres ma journée, mais au contraire, je vais aller les voir et je vais leur raconter ma journée pour avoir cet échange-là, et je ne vais pas dire que c'est leur faute si je suis de mauvaise humeur. Mystère de la patience, mystère d'être un missionnaire de l'évangile. Et quelque part, j'ai parlé avec du pastoral pour organiser quelque chose et je suis sorti de la surprise. Donc, je pensais vraiment qu'il y avait une possibilité d'organiser des activités d'évangélisation. Et je suis sorti là un peu surpris parce que j'avais vraiment un peu une vision nouvelle pour les choses qui vont arriver en Belgique. J'ai vraiment une conviction profonde qu'on arrive dans une nouvelle saison, que j'ai vraiment une vague de réveil qui arrive et qu'on est vraiment revêtu d'une autorité spéciale pour pouvoir proclamer l'évangile. Il va y avoir des signes, des miracles, des jeunes par centaines qui vont arriver à Jésus. Je pense que, je pense fermement, je crois que vous avez vu des jeunes ici et des jeunes dans d'autres églises. S'ils suivent ou pas, ça va décider de la destinée de beaucoup de personnes autour d'eux. Parce que si on va parler d'évangile autour de nous, est-ce qu'on va surfer sur cette vague de réveil? Et ministère d'être un missionnaire de l'évangile, j'ai remarqué que après ce trailer des pasteurs, on doit pouvoir vraiment être dans la mentalité où on choisit de dire, ok, proclamer l'évangile, ça va être une décision. Ça va vraiment être une décision que je prends, un mandat que je choisis. C'est pas seulement si les circonstances sont bien. C'est pas seulement si j'ai un programme parfait comme je voudrais, carré, non. C'est quoi qu'il arrive, l'évangile sera prêché. Quoi qu'il arrive, l'évangile sera proclamé. C'est presque comme une fixation que Dieu nous aurait donné de dire, ok, peu importe les circonstances, moi je choisis d'être un missionnaire de cette famille. Le ministère de missionnaire. Voilà. De ce dont je parle, c'est d'être un chrétien, être un disciple. Un peu de maths pour terminer. Si tous les chrétiens de Belgique, on va les estimer, si c'est 500 000 chrétiens en Belgique, et que chaque année ils faisaient un disciple, ils marchaient avec quelqu'un qui faisait un disciple, qui se donnait à Jésus, qui faisait son tour à présenter Jésus aux autres, c'est-à-dire en 5 ans, toute la Belgique, elle connaîtrait Jésus. 5 ans. 500 000 personnes, une personne par an. En 5 ans, toute la Belgique. Voilà. Si une seule personne, si on est tout seul, eh bien il faudrait 24 ans. En 24 ans, 16 millions de personnes connaîtraient Jésus. Tu fais un disciple par an pendant 24 ans. Des disciples qui font des disciples. Je trouve ça incroyable pour moi. Alors, on revient peut-être qu'on profite des derniers moments qui nous restent pour peut-être faire un petit peu de louange, à pouvoir reconsidérer un petit peu les choses que je dis ce matin par rapport à nos cœurs, de savoir quelle est l'attitude de nos cœurs. Est-ce qu'il y a des grandes pièces à changer? Est-ce qu'il y a des gros morceaux à changer dans la vie, des décisions importantes au niveau relationnel, professionnel, familial? Est-ce qu'il y a peut-être des petits réglages à faire dans nos attitudes de cœur, de la façon dont on s'exprime, de la façon dont on vit notre vie? Moi, je pense que Jean-Esprit, il y a des choses à nous montrer ce matin. Et puis, au-delà de tout ça, moi, je veux vraiment qu'on puisse prier pour le réveil dont Francisco il a parlé, ce moment où on a prié pour la Belgique. Ça fait longtemps que j'ai ce sentiment-là, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut garder ça dans la prière avec toi. Voilà. Je vais te faire relever.